Salut François.
Rebonjour et merci en passant hein, pour les bons mots hier à la fin de la chronique de Pierre-Yves.
Ah, c'est ben, gentil. on admire ton contenu et ta voix.
J'ai bien vu.
OK, parle-moi de la débandade boursière qui a marqué
cette semaine. Oui, une semaine particulièrement difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de la dernière semaine, particulièrement la hausse des cas aux États-Unis de COVID-19. Pour ceux qui pensent que c'est une fausse pandémie ou fake news, comme le président le mentionne.
Le marché pense que c'est pas vrai.
C'est pas la même chose.
Le marché pense que c'est très vrai.
Oui, tout à fait. Et en moyenne, cette semaine, on a perdu à peu près 6% partout, là. Alors, j'inviterais les investisseurs à être prudents, ne pas paniquer, faire attention, parce qu'il y a des choses qui vont changer au cours des prochaines semaines, du moins, on l'espère. Mais ce que le marché veut avoir, c'est d'abord et avant tout, donc, une stabilisation des cas de COVID. Deuxièmement, avoir un plan de stimulus pour être capable de permettre aux gens de pouvoir se remettre à vivre, parce que tu sais qu'ici, là, pendant qu'on distribue des prestations pour tout le monde, ben aux États-Unis, il y a personne qui a eu de l'argent depuis le 1er septembre. Et là, on chicane encore, et là, semble-t-il qu'il n'y aura pas rien avant, après les élections. Et il y a aussi les élections présidentielles. Ce que le marché veut, c'est d'avoir un président qui va gagner sans équivoque et un Sénat qui va être du bon bord. Ça veut dire qu'il va être du bord du président. Est-ce qu'on doit lire là-dedans que ça doit être Biden? En tout cas, Biden mène par les temps qui courent en moyenne de 7 points au niveau national. Mais ce qu'on veut savoir, c'est que le président qui va être élu mercredi prochain, après les élections de mardi, ben que ce soit clair, net et précis pour pas qu'on se retrouve avec un cas en Cour suprême comme ça s'est fait lors de Bush-Gore en 2001. Alors donc, c'est pas ça qu'on veut, là. Alors, les marchés sont frileux. Il va falloir attendre à mercredi prochain, fort probablement, pour que ça se stabilise un peu. Mais en attendant, j'invite encore une fois les investisseurs à être prudents, de ne pas tout changer, leur portefeuille, là, strictement pour changer.
OK. Donc, baisse en bourse, mais pour ce qui est de la croissance économique au Canada, il y a une forte progression.
Tout à fait. 1,2% en août. Prévision pour le mois de septembre, 0,7%. Ça veut dire donc un PIB réel qui a grimpé au cours du trimestre de 10%. Et ça, quand on met ça annualisé, donc on prend le trimestre, on l'annualise pour l'année, c'est 46,4% d'augmentation. C'est énorme, là. Mais il reste encore du pain sur la planche. Mais c'est beaucoup mieux que nos voisins américains. Hier, on voyait les politiciens se targuer d'une hausse de 33%, même si le calcul n'est pas tout à fait pareil comme chez nous. Là, il en demeure pas moins que notre croissance économique a été pas mal plus forte dans la majorité des principaux secteurs qui affichent une hausse de leur production, sauf que c'est le prochain trimestre qui m'inquiète un peu, là. Moi, octobre, novembre, décembre, on recommence à reconfiner. T'as bien des secteurs qui vont être à reconstruire. Ça, c'est clair, net, précis. Particulièrement restauration et l'hébergement. Le transport en commun également. Quand on parle de transport en commun, c'est pas rien que les autobus. Là, on parle aussi des compagnies aériennes. Ça tarde encore une fois à venir, cette aide pour les compagnies aériennes. Qu'est-ce qui va arriver avec la fusion d'Air Canada et de Transat? On demande encore des allègements chez Air Canada pour Air Transat pour qu'on congédie du monde. Et déjà, il y a 5000 personnes. Ça, c'est des emplois bien payés, là. 5000 personnes qui ont perdu leur emploi dans le domaine aéronautique. Là, on pense pas rien qu'aux compagnies aériennes. C'est des dommages collatéraux partout, que ce soit Pratt & Whitney, que ce soit Bell Hélicoptère, que ce soit chez Airbus, où ça viendra évidemment à un moment donné. Tu sais, tu peux pas stationner les avions qu'on a déjà construits de façon indéfinie. Tu sais, le tarmac, il est pas éternel non plus, là.
OK. En parlant de choses qui ont planté, il y a des profits de l'Auto-Québec là, qui ont chuté de 75%.
Pelaille. 736 millions l'année passée, c'est 181 millions au cours des 6 derniers mois. Il s'est passé quoi? En fait, tout a été fermé. Et d'ailleurs, ils font partie, puis ça va être difficile encore au cours des prochains mois. C'est pas avec l'Auto-Québec qu'on va abaisser le déficit de 15 milliards. Ça, c'est clair, net, précis. Pourquoi? Ben, tu sais, regarde les casinos, là, la majorité sont en zone rouge. Donc, ils ont tous été fermés, sauf un. Même celui de Tremblant est fermé. Je pense que c'est Tremblant qui est pas fermé. Les autres sont tous fermés. Tu sais, pendant la pandémie également, on avait tout fermé, que ce soit les salons de jeux, les loteries vidéo. Également, même pendant quelques semaines, il n'y a pas eu de vente de billets Hein, c'est les vrai. Billets, il n'y a pas eu de vente
on voulait
de
éviter
billets.
Que les, on voulait éviter que les gens se déplacent pour aller acheter des billets de loterie.
Tout à fait. Donc, on voulait vendre strictement les biens essentiels et on considérait que les billets de loterie ne l'étaient pas. Et finalement, on s'est aperçu que, tu sais, regarde, quand ça sort de la machine puis qu'on le donne aux clients, le danger de COVID n'est pas là. Alors, donc, on a recommencé. Mais les gens demeurent extrêmement craintifs quand même, n'achètent pas nécessairement des billets de loterie, malgré le fait que les gens ont de l'argent dans leur poche. J'ai eu des statistiques toutes récentes du PCRE, donc ce qui a remplacé la PCU. Il y a quand même près d'1,5 million de personnes qui en ont bénéficié et déjà le gouvernement fédéral a dépensé presque 1,5 milliard de dollars pour ces personnes-là qui ont besoin de sous. Et on continue donc avec la subvention salariale d'urgence, le CUSC qui est donc le prêt pour de 40 000 dollars. Si tu rembourses avant 2022, 31 décembre 2022, ben, tu auras 10 000 dollars. Mais faites attention, le 10 000 dollars est imposable. C'est imposable et pas dans 2 ans, 7 années, s'il vous plaît.
OK, François, il y a 2 recours collectifs là contre Desjardins qui peuvent aller de l'avant.
Oui, tout à fait. Et c'est la Cour suprême qui a donné le go aujourd'hui. Ça porte sur les pertes de rendement qui, tu te rappelleras, 2008, hein, ça avait pas été facile. La Caisse des dépôts avait perdu 40 milliards, donc fallait pas s'attendre à ce que les placements un peu partout à travers le monde soient reluisants non plus. Et ce qu'on reprochait, ben c'est un monsieur Asselin qui reprochait à Desjardins d'avoir manqué à son devoir d'information de façon précise des risques pour les placements à capital garanti. C'est-à-dire que tu plaçais, mettons, 1000 $, ton capital de 1000 $ était toujours garanti, peu importe ce qu'elle allait se passer avec tes placements, sauf que on l'a averti même après une couple d'années où c'était investi dans ces fonds-là, ben tes rendements vont être zéro, tu n'en auras pas de rendement. Pas de bonne humeur. Il met la faute sur deux filiales de Desjardins, qui est cabinet de services financiers, et l'autre gestion internationale d'actifs, parce qu'ils sont responsables, chacun de leur côté, de pas avoir obtenu le rendement escompté. D'autre part, gestion internationale, c'est elle qui gérait les placements en question. Donc, l'action collective qui avait d'abord été refusée par la Cour supérieure du Québec, on s'est rendu jusqu'à la Cour suprême qui a dit finalement oui, mais on va suivre ça de près, cette bataille-là, parce que ça rouvre des portes si jamais ils gagnaient à ces deux recours collectifs-là. Si on gagnait, ben ça pourrait ouvrir des portes pour d'autres poursuites ailleurs.
Très juste.
2008.
François, on va t'écouter en fin de semaine. C'est demain ou demain dimanche?
Demain dimanche, on va répondre aux questions des auditeurs à compter de 9h et j'en reçois à tous les jours. J'essaie d'en répondre le plus possible, mais ça va plus vite par la radio. Alors donc, à compter de 9h demain matin, c'est pas Paul qui va être là, c'est Patrick Marsolais.
Parfait. Bon week-end. Merci.
À toi aussi, au revoir.
17h36, Raphaël Jacob s'en vient. Dernier droit de la campagne présidentielle.